Bonjour à toutes et à tous, les curieuses et curieux, optimistes dans l'adversité, actifs, réactifs, militants. Bienvenue sur Fréquence 7. C'est lundi, vous écoutez l'onde curieuse et vous avez bien raison. Aujourd'hui, on se questionne sur l'état de santé du centre hospitalier d'Aubenas et sur l'avenir de la santé de proximité ici en Sud-Ardèche avec Julie Audigier qui est médecin radiologue au centre hospitalier d'Aubenas et qui représente la communauté médicale de l'établissement. Alors face à la situation de crise des urgences, à la désertification médicale qui touche près d'un tiers des communes en France et pas seulement, contrairement à ce qu'on croit, pas seulement en milieu rural, est-ce qu'on a des raisons d'espérer ? Réponse dans quelques minutes lors de cette entrevue qui a été enregistrée vendredi. Mais avons-nous d'autres raisons d'espérer que la vie soit plus chouette, soit plus ouverte ? Je ne sais pas, souvent c'est le rôle des infos de nous dire ça. Aujourd'hui, le point info, c'est un point de vue info que nous vous proposerons mensuellement et c'est l'Écho des Cévennes qui livre ses news et investigations.
Comment l'écho voit l'actu ? Une fois par mois, un membre de la rédaction de l'Écho des Cévennes, notre journal satirique local, nous présente leur point de vue sur l'actualité.
Oui, la dernière fois, nous n'avons pas tellement parlé des ventes. Les ventes s'en sont ressenties. Cette fois, il y avait de l'actualité, évidemment. Notamment l'histoire de Cyril Villarmeau, qui était le projectionniste et animateur brillant du cinéma des Vences, et qui a été, viré, en quelque sorte. Hein. Et donc ça a fait scandale, les gens des Vences ont suivi ça quand même. On a d'ailleurs eu un peu de mal à suivre l'actualité, parce que nous sommes un trimestriel, et même la presse locale avait du mal à suivre les péripéties. Mais notre journal permet un peu le recul et l'analyse plus que le quotidien, quoi. Ensuite, les Vences, il se passe aussi des choses concernant l'ancien hôpital, là où étaient les migrants, il fut un temps. Tout ça a été démoli et la mairie avait depuis très longtemps un projet d'éco-quartier, d'une part d'éco-quartiers et d'autre part de maisons médicales, de maisons de retraite pour les vieux riches. Est-ce que tout ça est compatible ? Bon, nous avons fait un article là-dessus. En gros, on peut conclure que c'est le lobby des médecins qui a triomphé, quoi, et qui va avoir beaucoup de choses privées. Je dirais pas exactement avec l'argent public, mais c'est quand même le lobby des médecins, quoi. D'accord. Voilà, ce qui traduit un peu l'orientation un peu droitière quand même des Vences, même s'ils se disent sans étiquette. C'est eux qui ont poussé à la roue les médecins pour avoir une nouvelle, parce qu'ils n'étaient pas contents d'être dans l'ancienne maison médicale, pourtant qui a été inaugurée par Sarkozy un certain temps, là-bas près de la Poste. Donc, enfin, il y avait beaucoup de défauts de fabrication aussi. Enfin, bref, tout ça s'est expliqué.
Un autre dossier sur les Vences, c'est la police municipale qui se retrouve armée.
Non, pas vraiment. Enfin, pas vraiment. Je sais pas. Ils doivent avoir quelque chose, une matraque ou un truc comme ça pour l'instant. Mais ils demandent, ils se plaignent d'être un peu désarmés. Il est vrai que les Vences, sous forme de boutade, je dirais que c'est quand même pas Marseille, quartier nord encore, hein, on n'en est pas là encore, hein, même s'il y a un peu de cannabis à droite à gauche, on n'en est pas encore là, mais donc ils demandent des armes, on ne sait pas quoi, voilà, nul doute que Wauquiez, la région, donnera les subventions, nul doute, mais ça c'est affaire à suivre aussi.
Vous vous êtes penché aussi dans ce numéro 155 sur la communauté de communes de Baume-Droby. Les oppositions à La Blachère et Joyeuse.
Oui, nous avons un peu parlé des différentes oppositions, celles qui sont plus ou moins dynamiques et celles qui sont plus ou moins molles, dirons-nous. Voilà, il y a pas mal de choses sur Baume-Droby aussi. Alors à Rocle, il s'est passé des choses aussi. Petite commune, Rocle, mais l'ancien maire, Éric Prat, il s'est pris pour Chirac, il a dissous, il n'est pas l'Assemblée, mais le conseil municipal, et manque de chance pour lui, il s'est retrouvé minoritaire. Et en fait, bon, comme là, nous ne pouvons pas suivre l'actualité au jour le jour, le nouveau conseil municipal a élu un maire plutôt écolo. Je pense même qu'il est ouvert. ELV.
Et enfin, on a la chance ou pas d'avoir une nouvelle préfète nommée en lieu et place de Thierry de Vimieux. Et vous lui avez consacré aussi gentiment un petit article, plutôt pas très méchant, mais raconte-nous rapidement alors.
Oui, comme chacun sait, feu Rabhi, paix à son âme, s'il en a une, a été un peu notre tête de turc durant très longtemps. Hein. Et d'ailleurs, la presse ne l'a plus tellement invité du jour où un éminent journaliste du monde diplomatique a fait une enquête serrée sur Rabhi et ses vicissitudes. Et voilà. Du coup, là, on a été crédible, quoi. Et donc la préfète est venue dans le coin, elle a dit « Ah, oh, c'est dommage que je n'ai pas rencontré ce Rabhi, etc. » Donc nous ironisons un petit peu, quoi.
La pollution dans nos rivières, c'est un des grands thèmes dont on n'a pas fini d'entendre parler. Les plages, on a fermé une plage à Vallon-Pont-d'Arc cet été, on a fermé une plage à La Baume aussi. C'est une pollution à la bactérie Escherichia coli, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Elle est un peu complexe. Vous avez développé un peu sur ça et sur cette fameuse digue de la Tourasse qui est toujours un dossier. Il n'est malheureusement pas enterré. Il y a encore une banderole en travers de Rosières là, qui est réapparue ce mois-ci sur l'opposition à la destruction de la digue.
Oui, la digue, c'est un véritable feuilleton. Il n'y a pas un écho de Cévennes, un numéro dans lequel on ne parle pas de la digue de la Tourasse. Évidemment, ceux qui ont détruit la digue ont été condamnés, bon, à payer, etc. Ça continue. Voilà, donc nous parlons de ça. Et alors, par rapport à la pollution aussi, bon, enfin, on peut dire que c'était bizarre, la pollution a eu lieu durant une journée. Après, il n'y a plus de pollution. Et alors, sur la Baume, d'ailleurs, en bas de la Baume, juste à l'entrée de Rouen, ce côté Saint-Alban, ouais. Il y a une pancarte un peu discrète d'ailleurs, mais les gens, la baignade n'est pas forcément interdite, alors qu'elle devrait l'être, parce que c'est assez dangereux. Hein. Et on pense que la pollution vient des mauvaises conditions d'épuration des maisons privées. Le problème, c'est que tant le maire de la Baume que celui de Saint-Alban n'ont pas interdit la baignade. Sans doute pour favoriser le tourisme, ça ferait mauvais genre, mais bon.
L'eau questionne, quoi, et ses usages. Est-ce qu'on utilise nos rivières? Est-ce qu'on privilégie l'utilisation des rivières pour le tourisme? Et les canoës? Est-ce qu'on ferait pas mieux de réfléchir à une vraie qualité de l'eau et de nos milieux naturels pour se permettre d'habiter tranquillement en Sud-Ardèche?
Oh, sinon, on a des brèves, des traits d'humeur un peu partout, qui sont difficiles à résumer, mais on a des petits trucs quand même, à droite, à gauche. Création d'une coopérative, d'un magasin coopératif à Rocher, d'ailleurs, du côté de l'Argentière. Tout n'est pas négatif. De temps à autre, on est content d'avoir un truc positif.
Et oui, heureusement, parce que le journalisme local, fût-il satirique, a besoin quand même aussi de quelques bonnes nouvelles. Notamment, c'est vrai, l'ouverture de cette épicerie à Rocher, ça a été monté entièrement par un collectif d'habitants. C'est pour se permettre de faire les courses sans descendre jusqu'au carrefour de l'Argentière, qui est pas non plus le lieu d'épicerie le plus abordable ni le plus qualitatif de la région. Vous pouvez pas le rater, l'écho des Cévennes, dans les bureaux de tabac, partout, chez tous les revendeurs de qualité.
On peut trouver au Vence, à Macpress, à la Belle Oursette. On peut trouver à Ruons, au bureau de tabac, à Saint-Paul-le-Jeune, à la librairie Tiers-Temps à Aubenas, à Joyeuse, bureau de tabac, à la Blachère, évidemment.
La couverture de cet automne est orange comme une feuille morte. Ne manquez pas l'apparition du prochain numéro au mois de décembre. Et nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau Point sur l'actu par André Manali ou quelqu'un d'autre des rédacteurs et rédactrices de l'Écho des Cévennes.
Oula.
Ouais, un point de vue info en forme de sommaire pour le journal satirique L'Écho des Cévennes. Mais donc, il y a quelques raisons d'espérer. Et oui, espère-t-on un monde nouveau ?
Un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit du serveur central. Comme une publicité qui nous masquait le ciel, des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Un monde nouveau de Feu Chatterton, que savions-nous faire de nos mains ? Presque rien. C'est l'excellent choix musical de notre invitée Julie Audigier, médecin radiologue du centre hospitalier d'Aubenas, que nous avons interviewé vendredi. Et voici les mots qu'elle nous glissait pour accompagner ce choix musical. On a beaucoup évoqué le monde d'après, au plus fort de la pandémie Covid, mais force est de constater que celui-là n'est pour le moment pas mieux que celui d'avant. Alors à nous de nous questionner sur ce qu'on peut faire de nos mains. Relevons-nous les manches et avançons sans subir. Eh bien, c'est toute l'essence de cet entretien et de cette volonté, effectivement, même lorsque les difficultés sont énormes, trouver des solutions et se relever les manches. On est avec Julie Audigier, qui est médecin radiologue au centre hospitalier d'Aubenas et présidente de la commission médicale d'établissement, c'est-à-dire qui représente les médecins ou la communauté médicale, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bonjour Julie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. On va voir ensemble, on va essayer de voir comment se porte la santé de proximité ici en Sud-Ardèche. Je sais, c'est très vaste.
Un vaste sujet.
C'est un vaste sujet. Vous, auditeurs, vous avez sans doute suivi les derniers événements, peut-être même en avez-vous subi certaines conséquences. On parle bien sûr de la fermeture des urgences de nuit à Aubenas, de la création d'un GHT, alors rien à voir avec une technique de stérilisation, enfin, en tout cas on l'espère. GHT, non, c'est l'acronyme de Groupement Hospitalier Territorial, c'est une réorganisation des services hospitaliers sur le territoire. Et puis dernièrement, de cette campagne de communication décalée pour recruter des nouveaux médecins, je peux pas Gardèche. Alors on va parler de tous ces sujets pour essayer d'entrevoir ensemble l'avenir de la santé de proximité ici avec vous et puis de comprendre un peu les enjeux. On va commencer par cette campagne de communication parce qu'elle nous introduit justement au problème et au manque, au besoin de cette santé de proximité. Alors cette campagne, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, donc c'est une campagne qu'on a souhaité mettre en œuvre pour stimuler l'attractivité de notre établissement, plus largement de notre territoire. L'idée, c'est de faire valoir nos atouts, d'essayer de justement montrer la particularité du Sud-Ardèche, à la fois en termes d'exercice médical et puis à la fois en termes de qualité de vie. Donc on essaye de jouer sur les deux versants, professionnel et personnel. Et donc il nous a semblé intéressant d'avoir un abord un peu décalé justement, un côté un peu ludique pour attirer l'œil. Et ça marche plutôt pas mal parce qu'on a eu plein de retours, on a des annonces qui sont très consultées. Donc je pense que c'est une réussite. Avec l'Office du tourisme aussi qui a participé puisqu'il nous a fourni les visuels. Donc on les remercie d'ailleurs dans ce partenariat. Et ça aussi c'est chouette parce que finalement c'est aussi comme une démarche territoriale. Voilà, pour faire valoir le Sud-Ardèche, ses avantages.
C'est une démarche globale. Cette campagne de com, elle a lieu où ? Vous allez essayer de toucher les médecins ou les futurs médecins ou les étudiants médecins, où ? Par quel biais ?
Alors en fait, on utilise plusieurs canaux, les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Les annonces déjà entre nous, nos modes de communication. On s'est déplacé même avec un jeune urgentiste, là, le docteur Valentin Closier, sur une soirée de job dating qui était organisée par des internes de médecine d'urgence de Lyon, où là on a présenté du coup notre campagne, enfin en tout cas les affiches, etc. Donc on essaye d'arroser largement par tous les moyens possibles, cette campagne, nos annonces.
Et ça, c'est un des leviers que vous essayez d'actionner. Vous êtes dans une situation où vous essayez d'actionner justement tous les leviers possibles.
Ouais, c'est exactement ça. On est on essaye d'être proactif, de pas subir la situation qui, je tiens à préciser, nationalement, c'est très compliqué pour tous les hôpitaux publics de France en termes de recrutement médical en particulier. Donc nous, on fait pas exception. Au contraire, notre territoire cristallise un petit peu les difficultés du fait de notre éloignement, des contraintes de mobilité. C'est vrai qu'on est le seul département à pas avoir de train. On est distant plus d'une heure de l'autoroute. Donc c'est vraiment des arguments qu'on nous fait souvent valoir pour expliquer qu'on est peut-être un peu moins attractif que d'autres hôpitaux de même taille. Donc on va être obligé d'essayer de compenser ça d'une certaine façon pour booster notre attractivité. Donc cette campagne de recrutement, c'est juste en fait le support qui va permettre d'amener les gens à voir ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est auprès des internes, on a une maison des internes, on a un projet même de construction pour pouvoir les accueillir encore mieux. On accueille des externes, c'est des étudiants hospitaliers de la 3e à la 6e année de médecine, en se disant que un mouvement un peu jeune avec des externes, des internes fait que les choses peuvent prendre. On peut faire découvrir notre territoire déjà à des jeunes qui peuvent avoir envie d'y revenir en tant qu'interne puis en tant que médecin. On a une action aussi avec la médecine de ville, parce que vous savez, on a un collectif de médecins, le CODASAM, où on œuvre depuis plusieurs années sur justement l'attractivité auprès des internes avec des journées d'accueil. Là, on a fait un livret d'accueil pour les internes. Donc au sein de l'hôpital, il y a un référent pour les internes qui est en lien aussi avec les coordonnateurs DES, ce qu'on appelle les diplômes d'études spécialisées de la fac, et puis avec la ville pour qu'on ait une action coordonnée ville-hôpital auprès des internes. Donc, ça fait partie des choses qu'on travaille en termes d'attractivité, la qualité de vie au travail. On essaye aussi de travailler, on a une démarche de développement durable qui est en train de se mettre en place à l'hôpital.
Qu'est-ce que ça veut dire, une démarche de développement durable au sein de l'hôpital ?
Alors ça veut dire plein de choses. C'est que déjà, il faut qu'on fasse un diagnostic. On est en train de faire un diagnostic sur le développement durable, c'est-à-dire nos contraintes énergétiques, le gaspillage, tout ce qu'on peut, pour pointer après du doigt, ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer la situation. On a des médecins qui viennent à vélo, beaucoup, de plus en plus. Donc ça aussi, on le fait valoir, parce que c'est quelque chose que, d'abord, c'est bon pour la santé, et puis c'est une démarche de développement durable. On a mis des parcs à vélo, enfin voilà, on essaye d'être soucieux de ça, différentes façons.
Ce que vous essayez de mettre en avant finalement, c'est de dire que travailler dans un centre hospitalier tel que celui d'Aubenas, ici en Sud-Ardèche, ça a du sens et à plein d'endroits. Là, vous parlez du développement durable, de s'inscrire finalement dans une dynamique de développement durable, mais aussi, et c'est ce que vous disiez hors antenne, c'est stimulant intellectuellement de travailler dans ce type d'établissement. Pourquoi ?
Ouais, c'est très stimulant. Alors, effectivement, on travaille les deux versants, hein, donc qualité de vie personnelle aussi, et puis qualité de vie professionnelle. C'est stimulant intellectuellement parce que on est en première ligne, c'est-à-dire qu'on est les premiers médecins à voir les patients. Généralement, ils sont vierges ou perdent du temps de tout un passif médical. Donc, c'est à nous de débrouiller la situation. C'est à nous de creuser et d'essayer d'avancer le plus loin possible dans le diagnostic de la maladie qui peuvent les concerner. Donc ça nous oblige à un exercice intellectuel déjà assez fort, parce qu'on est obligé de puiser dans nos ressources intellectuelles, et puis aussi avec nos différents collaborateurs, nos collègues spécialistes, etc. Et puis quand on atteint nos limites de compétences, ou notre plateau technique aussi, qu'on attend les limites de ce qu'on peut faire sur place, on va être amené à créer des collaborations, à agir avec d'autres médecins, d'autres établissements. Donc là aussi, c'est intéressant, parce qu'on crée des filières de soins qui nous permettent aussi d'ouvrir finalement l'hôpital à un territoire plus vaste que le nôtre. Donc pour toutes ces raisons, c'est très stimulant, c'est très, c'est très gratifiant, c'est très intéressant. Et ça nous crée aussi des ouvertures sur d'autres champs, parce que de fil en aiguille, d'être avec d'autres spécialistes, on va aussi aborder des questions peut-être annexes, enfin qui ne sont pas annexes d'ailleurs, hein, mais autour des sciences humaines, etc., enfin des questions éthiques. Donc il y a un pan d'intérêt qui est très vaste, en fait.
Parce qu'il n'y a pas, si je comprends bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'offres médicales très touffues, très diversifiées sur le territoire, comme ça peut être le cas dans une grande métropole, à Montpellier, à Lyon, etc. Vous êtes du coup amené à, sinon prendre en considération tout ça vous-même directement, ou au moins mettre en lien et être ce lien, et donc faire ce travail intellectuel d'être en relation avec toutes ces dimensions.
Oui.
Du soin.
Alors, la santé, il faut, je pense, on a une conception territoriale de l'offre de soins, et effectivement, il y a une notion de gradation des soins qui est très importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire partout, c'est pas possible. D'abord parce que c'est pas possible en pratique, mais aussi parce que c'est pas souhaitable, parce qu'il y a aussi une notion de seuil d'activité, c'est-à-dire que plus on fait certains gestes, meilleur on est. Donc, on n'a pas besoin de tout partout, parce qu'on sait que le recrutement sur place serait pas suffisant pour être bon. Donc, c'est pour ça qu'on est effectivement dans la gradation des soins, y compris au sein du GHT, du groupement hospitalier territoire, où chaque hôpital a son degré de compétence, parce que ça s'inscrit dans une vision territoriale large pour un bassin de population. Alors, je ne sais pas si je suis claire, c'est assez technique,
on va y revenir. Poursuivons, on va revenir sur ce que c'est que le...
Voilà, et c'est vrai que l'hôpital, notamment des hôpitaux de taille dans des territoires comme le nôtre, c'est vraiment le pivot sanitaire, en fait, de l'offre de soins. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée, souvent, dans le système de soins de beaucoup de patients, ne serait-ce que par les urgences. C'est parce que c'est l'établissement où il y a la lumière allumée 24 heures sur 24, donc on sait que, c'est l'endroit où tout le monde peut trouver matière à se faire soigner. Tout le monde peut avoir accès aux soins par l'hôpital. Donc la place de l'hôpital, elle est absolument primordiale dans nos territoires. Et ensuite, c'est à l'hôpital d'organiser aussi, effectivement, la gradation des soins. Donc l'adressage vers les centres où il y a un plateau technique ou des compétences supérieures.
On revient juste sur ce groupement hospitalier de territoire. Alors, c'est quelque chose d'assez récent ici en Ardèche, c'est ça? Il y a un groupement hospitalier de territoire, Drôme Ardèche?
Non, en fait, les groupements hospitaliers de territoire, ça fait plusieurs années. Alors, je ne sais plus la date exacte, mais ça fait quand même pas mal d'années que ça a été mis en place. Nous, avant, on était regroupés avec Montélimar et Privas. Mmh. C'était Montélimar, l'hôpital support. Et récemment, au mois de mars, on a changé de groupement hospitalier de territoire, ce qui est assez inédit en France parce qu'il y a eu quand même très peu de redécoupage des GHT. Et pour une meilleure cohérence, pour une meilleure prise en charge de nos patients, pour une meilleure gradation des soins, on a été rallié à l'hôpital de Valence avec Romans. Donc actuellement, on est dans un nouveau GHT qu'on appelle Drôme Ardèche Vercors et qui regroupe Valence, qui est l'hôpital support, Montélimar, Romans, ou les HDN, enfin les hôpitaux de Drôme Nord, Privas et nous.
Et donc, comme vous le disiez, vous êtes l'un des 4 établissements pivots sur le territoire.
5, on est 5.
Ah,
5 établissements.
Mauvaise.
Enfin, il y en a 4 plus le support qui est Valence, mais voilà.
C'est ça,
voilà.
D'accord.
Oui, on est un des 5 établissements, on dit MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. C'est des établissements où, effectivement, en général, il y a des services d'urgence, de plateaux techniques d'obstétrique, de réa, etc. Donc, oui.
Et comment cette nouvelle organisation, donc vous disiez depuis mars 2023, hein, une organisation plus vaste, qu'est-ce que cette nouvelle organisation peut changer ou peut améliorer?
Alors, ce qu'elle peut améliorer, c'est que l'idée, c'était de se regrouper avec des hôpitaux dont l'offre de soins permettait finalement de créer des collaborations qui permettent à nos patients, à nous, d'être pris en charge pour des pathologies qui, au sein du GHT précédent, ne permettaient pas vraiment d'être pris en charge. Je vais prendre un exemple très pratique. Dans l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, des fois, on a besoin d'avoir recours à ce qu'on appelle la thrombectomie, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de manière radio-guidée le thrombus, donc le caillot qui bouche l'artère dans le cerveau. Ça, on n'avait pas de filière d'adressage particulière avant d'être regroupé avec Valence, et on était obligé d'essayer de créer des collaborations avec des CHU, des centres plus lointains. Mais comme, si vous voulez, on n'était pas fléché de manière officielle avec ces CHU, c'était parfois compliqué. Là, aujourd'hui, Valence a obtenu l'autorisation pour avoir la thrombectomie, et donc, de manière mécanique, nos patients seront systématiquement adressés à Valence et seront systématiquement pris en charge à Valence. C'est un exemple très concret.
Merci. On va revenir sur les besoins, sur les besoins de l'hôpital du centre hospitalier d'Aubenas. Quels sont-ils actuellement? Il vous manque combien de médecins?
Alors, actuellement, c'est compliqué de répondre à cette question parce que tout dépend de l'activité cible que l'on souhaite avoir. Donc, parce que je veux dire, le nombre de médecins, il faut qu'on se dise, on veut tant de médecins pour telle activité. Mmh. Donc, bon, actuellement, si on prend l'exemple des urgences, il nous faudrait recruter au minimum, mais vraiment au minimum, 3 médecins. L'idéal, ce serait qu'on puisse en recruter 8 de plus pour avoir un fonctionnement qui soit fluide. Donc voilà, et on peut déployer finalement ce besoin dans pas mal de secteurs, que ce soit la gériatrie, la médecine polyvalente, la cardiologie, la pneumologie, enfin voilà, tout dépend de ce qu'on souhaite faire finalement comme activité aussi au sein de l'hôpital.
Et de manière générale, là vous parliez pour les urgences.
Alors je pense que on pourrait dire qu'on souhaiterait pouvoir recruter une bonne dizaine de médecins, voilà, tous secteurs confondus. Mmh. On serait content de pouvoir recruter dans les années à venir une dizaine de médecins. Ouais.
Quels sont les premiers retours ou les premières perceptions que vous avez eues de la part des étudiants en médecine ou de médecins sur la possibilité qu'ils viennent en Ardèche? Quels sont, alors vous citiez tout à l'heure le problème de mobilité, d'éloignement. Est-ce que vous sentez quand même que avec les arguments que vous avez, vous, et puis que l'Ardèche a, que ce centre hospitalier propose, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un frémissement, qu'il y a un...
Oui, ben, du coup, déjà, nos annonces sont beaucoup consultées grâce à notre campagne de communication, je pense. Après, souvent, moi j'ai été surprise quand on est monté justement avec le docteur Clausier pour le job dating des jeunes urgentistes. Il y en avait qui ne savaient même pas où c'était l'Ardèche. Et pourtant, on n'est qu'à 2 heures de Lyon. Donc, déjà, je pense qu'on a vraiment. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place cette campagne, c'est déjà faire connaître notre territoire. Où est l'Ardèche déjà? Et puis ensuite, les médecins ont des retours assez positifs hein, en général, en disant oui, vous avez un cadre de vie exceptionnel, c'est vrai que la médecine que vous faites, c'est très intéressant. Mais bon, après, il y a toujours l'éloignement, la contrainte de mobilité, l'emploi du conjoint, parce que ça aussi, c'est pas neutre. Alors là aussi, on est dans une démarche d'accompagnement. Par exemple, à l'hôpital, on a mis en place des places en crèche systématiques pour les enfants des médecins qui seraient amenés à venir dans notre établissement. Ça, c'est un facteur qui est aussi important, c'est-à-dire l'accompagnement d'installation. Et ce qu'on fait déjà au sein du CODASAM aussi, où on a créé quand même une dynamique de compagnonnage et sociale assez forte. Mais les retours sont positifs. Hein, mais voilà, je répète, le problème, c'est que c'est national. On a une difficulté nationale à recruter des médecins à l'hôpital public, avec une concurrence du privé qui est quand même assez sévère.
Notamment en termes de salaire.
En termes de salaire, puis en termes surtout, j'ai envie de dire, de contraintes de fonctionnement. C'est-à-dire que l'hôpital, c'est le seul établissement, surtout dans les zones rurales comme la nôtre, où il y a la contrainte de la permanence des soins H24, avec ce que ça veut dire. Hein, quand on est trois à faire tourner les nuits et les week-ends, ça devient compliqué.
Et qu'est-ce que vous pouvez attendre justement, qu'est-ce que vous attendez de la puissance publique justement sur ce point précis, c'est-à-dire du déséquilibre, du désavantage de la fonction publique hospitalière par rapport au privé?
C'est un peu compliqué de répondre à ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les règles du jeu, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on voit bien les règles dans lesquelles fonctionne l'hôpital ne sont plus adaptées à la situation. Donc, je crois qu'il faut changer les règles. Donc, il ne m'appartient pas de définir quelles règles il faudrait mettre en œuvre. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à effectuer déjà sur la carrière hospitalière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler les contraintes à l'hôpital, avoir la charge des cas les plus difficiles, de la permanence des soins, avec un salaire qui est très correct, mais n'est pas à la hauteur de ce qui est vu ailleurs, forcément. Et c'est vrai dans les autres métiers de l'hôpital. Je pense qu'il y a aussi une répartition de la charge. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où il y a peu de médecins sur le territoire, on peut se poser la question de la participation de tous, une certaine permanence. Enfin, bon après, c'est des pistes, mais moi, il ne m'appartient clairement pas de définir quelle politique mettre en œuvre. Moi, j'ai juste un rôle d'alerte sur la situation actuelle, avec des équipes qui sont en tension, qui sont pressurisées et pour lesquelles la pression s'accentue de jour en jour. Du fait d'une paupérisation de l'offre médicale et c'est le cercle vicieux. Il y en a un qui part, ça en fait partir plusieurs parce que la charge devient encore plus lourde que ce qu'elle n'était, avec un manque de reconnaissance aussi. C'est vrai, un sentiment un peu de manque de reconnaissance. Et pourtant, je pense qu'on est tous très heureux de travailler à l'hôpital public, vraiment, parce que ça a du sens, quoi. C'est une mission qui est noble, qui est belle, avec un vrai service pour la population. C'est quelque chose de beau. Donc, mais ça devient parasité par trop de charges, en fait, trop de pression, et sans reconnaissance.
Quelles sont les pistes optimistes, les pistes d'espoir, là ?
Oh, il y en a quand même plein. Je pense que, il faut essayer justement de ne pas subir la situation. Et je crois que notre rôle à tous, c'est d'essayer chacun de s'engager à sa mesure. Et y a vraiment déjà un amour, je pense, des professionnels pour leur métier, un engagement qui est fort. Une volonté de défendre l'hôpital, en tout cas pour tous ceux qui y travaillent. Moi, je le sens clairement, les gens sont fiers de leur travail, sont fiers de leur outil de travail, ils ont envie de le défendre. Il y a une créativité qui sûrement est décuplée en période de crise par rapport aux zones de confort. Donc il faut qu'on chacun se saisisse de sa propre créativité pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est pour ça qu'on met cette campagne de recrutement, qu'on a des actions auprès des internes, qu'on essaye d'accueillir les externes. On a une ouverture vers les universités qui nous tient à cœur. On a un projet d'antenne de première année de médecine, vous savez, délocalisé sur Aubenas, qui est en collaboration avec l'Université Lyon 1, la Fac de médecine de Lyon Sud et le département. qu'on travaille et qui est plutôt en bonne voie. Donc ça aussi, ça naît du besoin. C'est souvent dans l'adversité que finalement, on va chercher des choses un peu inédites. Il y a le déploiement des infirmières de pratique avancée aussi, qui est en train de se mettre en place au sein de l'hôpital. Mmh. Donc,
on rappelle simplement ce que c'est-à-dire que c'est la possibilité pour des infirmiers et des infirmières d'aller un petit peu plus loin dans leurs études, c'est ça ?
Oui, elles font 2 ans de master, donc... Voilà, oui, c'est un vrai engagement aussi.
2 ans de plus, c'est ça. Et donc, il va leur ouvrir des possibilités de pratiques médicales un peu plus poussées. Enfin,
oui, c'est ça. Bah, après, elles ont un protocole d'organisation avec un médecin référent. Elles font des consultations, elles sont autonomes dans leur exercice. C'est une augmentation, une montée en compétences, en fait. Hein, donc, c'est une offre de soins supplémentaire, qui permet aussi aux médecins de se redéployer sur des tâches où là, il devient indispensable.
Mmh. On redit pour les auditeurs, les auditrices, en ce moment, donc, les urgences, comment ça fonctionne ?
Alors, les urgences sont fermées la nuit, 18h30, 8h30, hein, donc il faut appeler le 15 hein, systématiquement, alors sauf les femmes enceintes qui sont accueillies. Alors, je tiens encore à repréciser, notre ligne d'urgence vitale reste ouverte, c'est-à-dire le SMUR reste opérationnel 24 heures sur 24. Voilà.
Pour terminer cet échange, vous parliez de créativité. Un mot, parce que l'actualité, qui est aussi l'actualité culturelle, c'est la diffusion, mardi 24 au Rocacqua, de Morcellement, ce projet que vous aviez initié il y a déjà 2 ans, autour du cancer du sein ou des femmes et du cancer du sein. C'est un projet magnifique qui a donné lieu à un film, à un livre, aussi à une exposition. Dites-nous un mot de ce projet.
Un mot, c'est difficile.
Ouais.
Ben, c'est un projet dont, voilà, je pense que c'était un chouette, très beau projet, premier projet culturel au sein de l'hôpital de Benin. Alors j'espère que il va y avoir une inscription dans la durée, hein, de démarche culturelle au sein de l'hôpital. Et d'ailleurs, cette année, il y a eu aussi un projet culturel porté par le docteur Astel Avril de l'hospitalisation à domicile qui s'appelle Faire son temps. C'était sur les soins palliatifs avec l'auteur Sébastien Joignet. Donc voilà, ça a été un très beau projet aussi.
Sébastien Joignet, donc, qui était aussi l'auteur de Morcellement.
Voilà, avec Isalia Petmezakis pour le film. Et puis les artistes Magali Cazo, Elsa Wana et Justine Colomb pour l'exposition. Donc c'est la place de la culture, je pense, à l'hôpital est importante, d'autant plus dans un moment où c'est vrai que des fois, le côté un peu cadencé, un peu rapide, pressurisant de notre exercice mérite qu'on ait des moments de pause, en fait, des petits pas de côté pour re-questionner le sens de notre métier, à la fois en tant que soignant, et puis permettre aux patients, mais aussi aux accompagnants, parce que là aussi c'était un projet pour les accompagnants, d'avoir des espaces d'expression, et puis voilà, de rencontres un peu cathartiques, quoi.
En tout cas, Morcellement, Recomposer Ariane, c'est un très bel objet artistico-médical et qui dure, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est sur la durée, donc je vous le disais, c'est un projet qui a déjà 2 ans et qui continue de faire son travail, qui est un travail de mise en lien, qui est un travail de support de questionnement pour les femmes atteintes du cancer du sein. Merci beaucoup, Julie Odigier.
Merci à vous.
Je rappelle, donc c'est mardi 24 au Rocacqua, l'accueil est à partir de 19h et la projection du film est à 20h30. Il y aura la réalisatrice du film qui sera là, et puis ce sera bien sûr l'opportunité de discuter, d'échanger, de partager aussi autour de ces questions du cancer du sein. Merci encore, Julie Odigier, d'avoir été présente au micro de Fréquence 7.
Merci à vous.
Voilà, c'est ainsi que se termine donc l'onde curieuse du jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui sur Fréquence 7, à 17h bien sûr, il y aura la rediffusion de l'onde curieuse. À 15h, vous retrouverez le Telex. 13h, ce sera les jardins suspendus. Ce soir, à 18h, il y aura Solidaire d'abord. Vous pourrez retrouver également à 21h, Hexagone, Jazz & B. Voilà, c'était l'onde curieuse. Rendez-vous demain. Ciao.